Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Jamila, Zechrono Livracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On commence cette semaine le livre de Vaïkra, dont les premières parachiotes traitent spécialement et uniquement des sacrifices. Après qu'on a eu à la fin du livre de Shemot, quatre parachiotes qui parlent du sanctuaire, c'est beaucoup. Ok, alors à quoi il sert le sanctuaire? Mais les sacrifices. Alors maintenant, on va parler des sacrifices. Alors comment ça commence? Le premier verset. Il a appelé Moshe, il lui a parlé, depuis le sanctuaire, en disant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? D'abord, Bnei Israël parle aux enfants d'Israël, va Marta Lehem, et tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban, un Adam parmi vous qui va amener un sacrifice. L'Hachem, à Dieu. Mina behema, de l'animal, mina bakar, du bovin, mina tzon, des ovins, c'est tous les chèvres et brebis. T'écris votre korbanchem, vous amènerez votre sacrifice. On va analyser ce verset-là qui est le titre donc, de tout ce qui va se passer après, tous les types de sacrifices. Pourquoi c'est marqué? Parle au Bnei Israël, va Martin leur dira, Adam qui akriv mikem korban, un homme qui parmi vous va amener un sacrifice, korban l'Hachem, sacrifice à Dieu. C'est quoi cette façon de parler? Adam, un homme parmi vous qui va amener un sacrifice. On ne dit pas un homme parmi vous qui mettra les tfilim, un homme parmi vous qui va mettre le tzitzit.
Parce que là,
tout le
monde est concerné, alors
tu as dit que là, pas toujours un petit peu ça. Oui, par exemple, Hachem va ordonner aux hommes de mettre tfilim, pas aux femmes. Il ne leur dit pas Adam. Là aussi, chaque personne, la vérité, chaque personne est concernée dans un sacrifice. Hein, tu as eu une pensée pas bien, tac, faut prendre une vache. D'accord, chez Mishmaro. Alors pourquoi c'est marqué Adam? Parce que on parle ici d'une chose qui est très grande, ce sont les sacrifices. Sacrifice, c'est amener à Hachem un animal, et en fait, on aurait dû l'amener nous-mêmes. Quelqu'un aurait dû mourir pour avoir péché. Tu pèches contre le Dieu du monde, tu ne mérites pas la vie. Dans sa grande bonté, Hachem a accepté qu'on amène un animal à la place. Mais, bien sûr, quand tu amènes l'animal, ce n'est pas simplement que tu achètes une vache, on va dire, c'est 5 000 euros, je ne sais pas comment ça coûte une vache, d'accord. Il faut faire tchouva exactement. Il faut faire tchouva et penser que nous, on aurait dû subir ce que la vache va subir. On l'égorge, après on la brûle, etc. On aurait dû subir ça. Et quand tu fais tchouva, alors Dieu, dans sa grande miséricorde, il accepte le sacrifice comme si c'est toi et te pardonne ton péché. C'est un très gros cadeau. Mais pour ça, il faut être un Adam. Adam. Adam, c'est un être humain comme Dieu l'a créé. Parfait. Premier homme, il était parfait avant qu'il pêche. Et il faut apprendre ça de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, on voit que lorsqu'il a reçu, quand il est revenu la troisième fois du mont Sinaï, il a dit au Bnei Israël, ok, on va construire le sanctuaire, amener de l'argent et de l'or. Moshe Rabbeinu, contrairement à tous les juifs, il était très pauvre. Tous les juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris chacun au moins 90 chameaux libyens, des fortiches, rempli d'or et d'argent. Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé de prendre l'argent, il a pris le corps de Yosef. Il n'avait pas d'argent. Donc Madame Moshe allait au marché, elle achetait des haricots. Les gens achetaient du caviar cachère, d'accord, elle achetait n'importe quoi. C'était connu. Et tout à coup, lorsqu'il revient, il dit maintenant amenez-moi de l'argent et de l'or et on va construire le sanctuaire. Tout à coup, Madame Moshe, elle va au marché, elle achète comme tout le monde, du caviar cachère. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé là? C'est marqué que les tsanéadors, les moqueurs de la génération, ont dit « Moshe Rabbeinu, tu amènes de l'or, de l'argent, elle a même une partie dans la poche, pour la famille. » Les tsanéadors, les moqueurs de la génération. Alors Moshe, il a amené un compte de tout ce qui s'est fait. C'est le début de la paracha d'avant. La vérité, dans l'or, on voit combien il a reçu, mais on ne voit pas où c'est parti. Tout le reste s'appelle l'argent, le cuivre, chaque chose est dit. Combien on a reçu et où c'est parti? Pourquoi l'or? Parce que les Tsané adorent, les moqueurs de la génération, ils n'ont pas amené d'or pour la construction Les sanctuaires, ils s'en foutent, c'est des gens mauvais, d'accord. Ils ont mis un peu d'argent, peut-être un peu de cuivre, d'accord, mais pas de l'or. Donc, il n'a même pas fait le compte pour l'or. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, il était extrêmement minutieux, il a fait des comptes pour tout. Après, ils construisent le sanctuaire, ils attendent que la présence divine vienne. Rien. La présence ne vient pas. Moshe va prier avec Aaron, il prie et la présence vient. Ok, alors on dit maintenant, vas-y, alors rentre dans le sanctuaire. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Il dit, on ne m'a pas encore appelé. Ben vas-y. C'est pas Der Eretz. C'est pas poli. Der Eretz, traduction littérale, la voie de la terre. C'est-à-dire, il faut se comporter comme des gens bien. On ne m'a pas appelé, je n'entre pas. Et effectivement, un peu plus tard, Dieu va appeler Moshe, le dire, viens, et il rentre. Les Chazal ont appris de cela que c'est super important. On doit être quelqu'un qui se comporte avec politesse, avec Derech Eretz. Les sages d'Israël ont dit qu'un Tamid Chacham, un sage d'Israël qui n'a pas de Derech Eretz, un animal mort qui pue est mieux que lui. Pourquoi mieux que lui? Vu qu'il pue, les gens font attention et s'éloignent. Mais Tamid Chacham, il n'a pas Derech Eretz, alors nous on croit que c'est un type bien. Puis on voit des comportements qui ne sont pas tout à fait OK. Et on se dit, mais c'est comme ça que se comporte un Tamid Chacham. Il fait beaucoup plus de mal que la bête qui sont mauvais. Regardez à quel point. Le Ramban, Nachmanid, il dit que lorsque la femme de Potiphar, elle a voulu tenter Yosef, un jour, ils sont tous partis à la fête d'Avodah Zara, elle est restée seule à la maison avec Yosef. Elle le tente. Et elle attrape sa chemise. Yosef, il s'enfuit. Il laisse sa chemise dans les mains de Madame Potiphar. Elle, après, elle peut aller lui regarder. Il a voulu me violer, etc. Effectivement, le pauvre, il a fait après 12 ans de prison. Le Ramban pose la question, bah, c'est pas compliqué. En une demi-seconde, tac, tu prends la chemise, tu pars. Pourquoi il n'a pas fait ça? Der Eretz. C'est pas poli. Tu vas brusquer une femme, tu vas lui prendre de force maintenant la chemise des bras. C'est pas poli. Un homme bien ne fait pas une chose pareille. 12 ans de prison. Et il a bien fait. Le Ramban, il vante que c'est comme ça qu'il faut se comporter. On a trois héros de l'histoire juive, Hanania, Mishaël et Azaria. L'empereur irakien, Nabuchodonosor, il a fait une grande statue, il a dit à tout le monde de se prosterner. Eux, ils ont dit, on ne se prosterne pas. Prosterner pas, ou prosterner, ou au feu. Ils disent, on va au feu, il n'y a pas de problème. Ils ont fait une... Nabuchodonosor a fait une... un feu énorme. Et ils ont jeté les trois... Les personnes qui ont jeté les trois Hanania, Mishaël et Azaria dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés tellement le feu il était grand. Et tout à coup, ils voient que les trois sont en train de marcher dans le feu. Ils marchent, se baladent là-bas. Pendant trois jours, les trois se baladent dans le feu. Pour des moments, ils ont dit, ben, sortez. Ils disent non. Celui qui l'a jeté dans le feu, c'est lui le roi, c'est lui qui doit décider. Allez voir le roi et dites-lui que lui nous dise de sortir. Le roi est venu, il a dit, sortez, ils sont sortis. Ils restent dans le feu, pourquoi? Der Eretz, c'est pas poli. Le roi, c'est le roi, il nous jette au feu. Il ne peut pas sortir sans son avis, d'accord? Le roi, c'est le boss du coin. C'est complètement fou. Donc nous, évidemment, on est très très loin de ce niveau-là. Mais il faut arriver à monter, savoir se comporter bien. C'est super important. Je vous raconte quelques histoires de grands de Torah qui étaient des vrais Adam, des gens de qualité extraordinaire. On a eu un Rav qu'on a connu ici, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. C'était un des grands de la Torah du monde Ashkenaz. Il était dans une yeshiva qui était à Beit Vagan, Kol Torah, mais il habitait près du centre-ville. Et la yeshiva lui a dit, on vous paye un taxi. Il dit non, pas question qu'on me paye un taxi, c'est avec l'argent de la yeshiva, tout ça, je prends le bus. C'était très vieux, c'était très dur pour lui. Il allait à pied jusqu'au marché, Ben Yehuda. Là-bas, il prenait le bus. Et du bus, il arrivait à Beit Vagan. Là-bas, il arrivait près de la yeshiva. Un jour, il voit, il y a des élèves qui sont dans le bus et le voient. D'accord, maintenant, ils arrivent à la tachana, à la station, face à la yeshiva. On voit que le rav, il ne se lève pas. Bon, eux, sont descendus. Et le rav est descendu la station d'après. Après, il est venu à pied. Alors, ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à côté de moi, il y avait un vieux monsieur avec des paquets. Si je sortais, il aurait dû prendre des paquets et les bouger. Je ne voulais pas le déranger. Je lui ai dit, je vais faire le entre deux stations à pied pour ne pas déranger quelqu'un de lever les paquets à la station où je dois descendre. Et pas un jeune de mon âge, je suis encore jeune. Un vieux monsieur, d'accord, le rave, allait à pied comme ça. Une fois, il descend du bus et doit aller jusqu'à la yeshiva et il pleut. Il pleut, un parapluie. Du coup, un petit enfant qui va avec un petit parapluie, il dit « Fodara, Kodara, venez sous mon parapluie. » Bon, il s'est baissé comme ça, le petit parapluie ne servait absolument à rien, presque à rien du tout. Mais le petit enfant était tout content qu'il est en train maintenant de rendre service aux grands de la génération. Il va raconter ça à sa famille pendant des années. Du coup, une voiture qui klaxonne, « Kodara, venez, je vous prends en voiture. » « Non, je suis avec le petit enfant sous le parapluie. C'est bon, merci beaucoup. » Et arrivé tout trempé à la Shiva. Ils ont demandé, mais pourquoi ? Il était tellement content. Je vais enlever ce plaisir-là. Je ne vais pas faire une chose pareille. Regardez, ça c'est des grandes Torahs du peuple d'Israël. Ça c'est le Adam dont on parle ici. Tu veux être un juif, sois un bon juif. Combien on doit faire des efforts dans ce sens-là ? Le Stipler, c'est le grand de la génération. Une fois, on l'a invité à être Sandak à une Brit Mila. Alors, un type qui vient en voiture le chercher. Alors, lui, dans la maison, lui, le type, il est dehors, il t'attend dans la voiture. Quoi, il m'attend ? Il met ses chaussures sans les chaussettes. Et il fonce dans la voiture. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, pas mettre les chaussettes. Le Sandak, il est assis sur le siège du Moël, face à tout le monde, haut, et on voit très bien qu'il n'a pas de chaussettes. En bon français, ça la fout mal pour le grand de la génération. Mais faire attendre quelqu'un, jamais de la vie. Il fonce comme ça, et tant pis pour les chaussettes. Une fois, il était chez le Razonich. C'était le beau-frère du Razonich. Il était marié avec la sœur du Razonich. Razonich, il étudiait là-bas le matin, et à une heure, il y avait Mincha. Maintenant, on regarde si pour Mincha, il y a 10 personnes. Il y avait exactement 10 personnes. Mais sa père dit non, je ne pourrais pas rester, parce que j'ai amené l'installateur, l'électricien qui va venir chez moi, j'ai rendez-vous à une heure. Le jour, on lui dit ok, mais si tu n'es pas là, on n'a pas Minyan. Alors fais rapidement ici Mincha, après tu vas chez toi, il attendra un petit moment. Je ne peux pas faire attendre l'électricien comme ça, pour rien, parce que pour un Minyan, bah viens, on demande au Razonich. Il a dit, bien sûr, on ne peut pas attendre quelqu'un comme ça. Eh bien, au pire des cas, on priera sans Minyan, on attendra quelqu'un d'autre, mais on ne va pas maintenant prier en Minyan pour faire attendre l'électricien. Regardez, messieurs, je vous parle des grands des générations. Nous, comment on doit apprendre de cela pour devenir un Adam ? Quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui sait bien se comporter. Ce Adam, il vient d'Adam Harishon. Quel avantage avait Adam Harishon par rapport à nous, qui avait, le monde entier lui appartenait. Donc il n'y avait pas de vol. Qui peut dire, j'ai rien chez moi, j'ai jamais rien eu qui est du vol. Je ne te dis pas maintenant que tu vas prendre l'argent dans le porte-monnaie de quelqu'un. Mais il y a des choses très très fines des fois. Il y avait un grand rabbin, le Rav Simcha Zissel de Kelem. C'était un élève du Rav Israël Salanter, qui était un des grands du Moussar, il y a un siècle et demi. Et pendant Kippour, une fois, tout le monde prie, et le Rav Zissel a besoin d'aller aux toilettes. Alors il va aux toilettes, et quand il revient, ils ont déjà commencé la prière. Il dit, qu'est-ce que je fais? Si je prie dehors, je ne prie pas avec le Minyan. Si je prie dedans, je vais déranger tout le monde en passant entre les gens pendant qu'ils sont en train de prier. Je vais prier dans la porte. Il s'est mis à prier dans la porte. Après quelques minutes, son rave qui priait là-bas aussi, Salam vient lui dire, « Voleur ! Espèce de sale voleur ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais tu voles l'air ! » Il n'y avait pas l'air conditionné à l'époque, ni le ventilateur. C'était l'air qui rentrait par la porte. Tu te mets dans la porte, il y a moins d'air pour les gens. Voleur ! Aïe, 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 aïe. Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Abraham avait des centaines de milliers de têtes de bovins. Lot aussi. La différence entre les deux. Tous les animaux d'Abraham, ils avaient une muselière, ils ne pouvaient pas manger. Que dans les endroits qui sont permis, c'est-à-dire pas dans les champs des gens, un endroit qui n'appartient à personne. Les animaux de Lot, non. Pourquoi ? Lot a dit... Dieu a donné cette terre à Abraham, Et la descendance, Abraham n'a pas de descendant à l'époque, c'était Lot, donc c'est lui qui hérite, donc ça lui appartient, donc la terre lui appartient. Donc il peut maintenant manger partout, même chez les gens. Mais c'est faux. Quand tu vas manger dans le champ de quelqu'un, tu manges, tu es en train de le voler. On doit faire attention, super attention. C'est très facile de voler, c'est très grave de voler. Il y a des fois, des gens reviennent en Gilgoul, revenir réincarner pour un franc, un euro. T'as volé, il faut revenir. Et non seulement, le problème c'est que non seulement le voleur revient, mais aussi le volé, il revient. Parce qu'il faut, qu'on lui rende. S'il a de la chance, il peut prier à Hachem beaucoup, beaucoup qu'il ne revienne pas et qu'on donne un de ses descendants. Mais il y a énormément de cas où les gens reviennent en Gilgoul pour rendre l'argent qu'ils ont volé. C'est pas dommage. Revenir en Gilgoul, de nouveau tu dois naître. Puis après les mots dedans. Puis après aller à l'école, puis après faire un bac à Chemishmor, d'accord, tout ça pour un beau jour rendre l'argent, et là on te vole. Il y aura quelque chose que tu vas perdre de l'argent, et après tu meurs, d'accord, histoire de fou. Ne vole pas. Rends. Celui qui a volé, il ne sait pas à qui, alors qu'il fasse la tzedaka. Il prend cet argent, il dit je donne ça en tzedaka, je demande à Dieu que cet argent arrive à la personne qui a été volée. Ou si on connaît les descendants du type qu'on a volé, peut-être le voleur il est mort déjà, le volé il est mort déjà, il faut donner à ses descendants, d'accord ? Faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec ça. En parenthèse, le vol du goy est plus grave que le vol du juif. Voler un goy, c'est plus grave que de voler un juif. Parce que lorsqu'on vole un goy, peut-être on ne revient pas en Gilgoul pour cela, mais à ce moment-là, les forces du mal dans le ciel vont voler aux forces du bien la même valeur. Mais en spiritualité, très grave, très grave. Sans parler que si ça se sait, c'est du Khidoul Hashem, etc., etc. Donc Adam, tu dois être un Adam, pense à Adam qui était le premier homme que le monde entier lui appartenait, il n'était pas voleur. Il faut essayer de ressembler au premier homme et jamais, jamais rien voler. Aïe, voilà messieurs, en tant que juif, on doit se rapprocher de Dieu. Rapprocher de Dieu, ça veut dire faire des actes, pas des grands actes. Quand on fait des grands actes, ça ne tient pas longtemps. Des petits actes qui nous rapprochent d'Hachem. À votre âge, on va dire, et moi, quand j'avais votre âge, ça aurait été ça que j'aurais dû faire, d'accord ? Travailler pour arriver un peu plus tôt à la prière. La prière, après tout, c'est ce dont nous sommes en train de parler, les sacrifices. Aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices. Mais la prière, à la place, on verra que ça mène beaucoup plus haut que les sacrifices. Quelqu'un arrive, après le début de la prière, le temps qu'il fasse, Birkot HaShachar, Metalit Filin, il ne peut pas faire une prière normale. C'est certain. C'est certain. C'est pas dommage. C'est pas dommage. Hachem ne te demande pas toute la journée d'être avec lui, à prier. Il y en a qui priaient 3 heures Shachrit, 3 heures Mincha, 3 heures Arvit. Ok, 9 heures par jour. Alors, il m'a rapposé, et comment le reste de la journée, comment il faisait. Il avait la bénédiction d'Hachem. Il faisait peu et ça marchait très bien. Mais c'est pas nous. Tu pries une heure par jour, allez, 2 heures à tout casser. Mais fais-les bien comme il faut. Tu peux venir 5 minutes plus tôt, dire Birkot HaShachar lentement. Il y a les parties des korbanot qu'il faut faire dans le chemin Israël, c'est super important, là je l'ai parlé souvent ici. Il y a les parties qu'il faut faire avant Odou. Après tu fais aussi ta prière comme il faut, en train de prier, pas en train de réciter bêtement pour rattraper, arriver en retard à la Amida. Et comme ça, tous les jours de sa vie, le type y vit. D'accord ? C'est terrible, le regret qu'il aura, le regret qu'il aura pour quelques minutes supplémentaires dans son lit, la tête sur l'oreiller, c'est pas chaval, c'est pas dommage. Sois un dame. Rencontrer Hachem dans la prière, c'est plus grand que de rencontrer le plus grand millionnaire du monde. Comment s'appelle le plus grand millionnaire aujourd'hui ? C'est Elon Musk. Tu as rencontré avec lui, tu es tout content déjà 3 semaines à l'avance. Mon cher ami, tu as une rencontre avec Dieu 3 fois par jour. Et Shabbat 4 fois par jour. Tu n'es pas aussi content que ça. C'est Dieu ! Combien vaut ce millionnaire par rapport à Dieu ? Qui sait si tu vas vivre jusqu'au rendez-vous jusqu'au millionnaire ? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne tout. L'argent aussi, c'est pas le millionnaire. On a cette rencontre avec Dieu 3 fois par jour. Combien c'est grand ? Il y a 12 vaches. Qu'ont donné les présidents des 12 tribus pour porter les planches et toutes les affaires du sanctuaire. Quand on déménageait, il fallait des ménages. On ne pouvait pas porter à la main, c'était des grosses planches. Donc il y avait des vaches. C'est marqué que ces vaches-là, elles ont vécu jusqu'à la construction du temple avec Shlomo, Salomon. Ça veut dire, ça fait 580 ans environ, elles ont vécu, en pleine forme. Pas vieilles, sans rides, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elles ont porté le sanctuaire de Dieu, assez proche de Dieu. Et Dieu, il est éternel, alors ils ont droit à une certaine éternité. C'est Salomon qui va venir, il va les égorger en tant que sacrifice lorsqu'il a construit le temple. Maintenant, nous, qui est plus grand, les vaches du sanctuaire ou nous? C'est évident que c'est nous, parce que les vaches, elles ont porté que des planches. Je ne sais pas si elles comprenaient grand-chose. Mais nous, on s'adresse à Hachem, et Hachem, il attend ta prière. Il écoute ta prière et répond à ta prière. C'est marqué qu'on a Kouchem Dvekim, Bachem Elokechem, Chaim Kulchem, et vous tous qui êtes collés à Hachem, vous vivez aujourd'hui, vous vivez, ça donne la vie. Combien on doit faire des efforts pour être proche d'Hachem? Comprendre que la prière, ce n'est pas une récitation, mais c'est parler avec Hachem, être en union avec lui. D'ailleurs, dans la paracha, il y a un truc sympa ici. C'est marqué dans le sacrifice. Donc on a vu ce verset. Les Balmen Israël parlent au fils d'Israël. Ben, Martalem, tu leur diras, Adam qui a écrit un Kem Korban Lachem. Un Adam qui va sacrifier parmi vous un sacrifice à Dieu. Minabema, Minabakar, Minatson, d'Akrivo et Korban Lachem. Des animaux, du bovin et des ovins, vous sacrifierez votre sacrifice. En fait, à la fin, on parle votre sacrifice. Et avant, on parle du Korban Lachem, sacrifice à Dieu. La première partie est dit, un Adam qui va sacrifier de vous un sacrifice à Dieu. Et après, on parle des animaux, de tous les types d'animaux, et il va amener son sacrifice. Et il y a deux sortes de types. Il y a deux types de sacrifices. Le sacrifice qui vient du Adam, la partie haute qui est en toi, à l'image de Dieu. Adam n'est rien de plus haut que cela, c'est beaucoup plus haut que les anges. Ta partie profonde maintenant, elle va prier à Hachem. Elle va amener un sacrifice. Alors c'est un korban l'Hachem, c'est un sacrifice à Dieu. Mais si ce n'est pas toi, c'est le bovin, l'ovin, tous les animaux, de eux tu vas amener un sacrifice, c'est rien, ça c'est la partie de ton corps. Toi, maintenant tu as payé de l'argent, tu amènes ton sacrifice, tu fais ce qu'il faut faire, mais toi tu es absent. À quoi ça ressemble? Il y a un livre de Moussard, qui s'appelle Chavot al-Bavot. Dans beaucoup de livres, tu as des acceptations de grands rabbins qui disent que c'est un très bon livre, etc. Ce livre-là, il a une acceptation du bon Dieu lui-même. Comment on sait? Parce que le Beit Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il avait un ange qui lui parlait. Et l'ange lui a dit, il faut que tu te dis tous les jours dans Chavot al-Bavot, ce livre de Moussard. Donc on sait que c'est un livre extraordinaire. Et là-bas, le Chavot al-Bavot, il raconte l'histoire suivante, qu'il y avait un serviteur d'un roi. Le roi aimait beaucoup ce serviteur-là. Et un jour, il dit au serviteur, écoute, tu sais quoi, je vais faire un grand cadeau, je vais venir te voir chez toi à la maison. Voilà, on est dimanche, allez, mardi, je viens chez toi à la maison. Pff, quel honneur, sa majesté, etc., etc. Bon, lui, il rentre à la maison, mais il est super embêté. Pourquoi? Ça fait déjà 3 mois qu'il a fixé avec ses copains que ce mardi-là, ils allaient faire une grande balade ensemble avec les copains. Il dit, en aucun cas, j'annule la balade avec les copains. Mais le roi qui vient chez moi à la maison. Bon, on appelle sa femme et les enfants, vous écoutez. Mardi, il y a le roi qui va venir, mais moi je ne peux pas rester. J'ai mon excursion avec les copains, hein, vous comprenez que, avec mes copains, vous comprenez que je ne vais pas annuler mon excursion pour ce roi. Mais on va lui faire une table extraordinaire et vous serez à ma place. Il faut faire la discussion, vous allez parler avec lui, etc. Ok. Le même mardi, lui, il part le matin et à midi, le roi arrive avec son carrosse et ses serviteurs, etc. Il descend du carrosse. Madame est là, les enfants sont là, et lui regarde à gauche, à droite, mais il est où le serviteur? Pourquoi il ne vient pas me dire bonjour? Alors la femme vient dire, Sa Majesté, voilà, mon mari aurait beaucoup voulu être ici pour vous recevoir, mais il a eu quelque chose de très important, il n'a pas pu, mais Baruch Hashem, on vous a fait une table digne de vous, vous êtes invité. Le roi, il part, bien sûr, très fâché. C'est quoi ces manières? Je viens chez mon serviteur et il n'est pas là, ça ne va pas du tout. Idem la prière. Quand tu viens maintenant prier à Hachem, très souvent, toi c'est comme le serviteur, tu es occupé. Tu réfléchis à tes affaires, tu as tu as promené avec tes copains, tu n'es pas là. Ben, tu demandes à ta famille, ta femme et les enfants, c'est la bouche, c'est le corps, se mettre debout, de parler, de citer, les yeux, tout ça, c'est pas toi. Toi, c'est ton cœur. Toi, c'est ta tête, ton cerveau. Le cerveau et le corps, il n'est pas là. Il est dans les affaires, il est dans les rêves. Mais tu vas demander à la famille de parler au roi, d'accord? Alors, la bouche, elle parle, les yeux regardent, liste ça. Mais le roi, il n'est pas content de ça. Moi, je veux pas ta famille. Voilà, chers amis, on doit faire des efforts énormes. Comme écrit Shulchan Aruch, il faut enlever toutes les pensées pour que notre pensée soit propre pour Hachem, complètement pour Hachem. C'est une préparation. Les grands d'Israël, il y a 2000 ans, comme j'ai dit, ils se préparaient une heure pour la prière, une heure après la prière pour atterrir. Nous, même 10 secondes, on n'arrive pas à se préparer. Mais ça vaut la peine d'arriver un peu avant l'Amida. Même le matin, tu vas un peu plus vite, tu arrives, tu te prépares maintenant, je vais m'adresser à Hachem. C'est très très grand, et Hachem m'écoute. C'est énorme. C'est écrit dans Traité Barot, page 32, que la prière, c'est plus grand que les sacrifices. Et dans la Mishnah, chapitre 4, c'est marqué qu'il faut que notre cœur soit, et la kavana, et l'intention, par rapport au Saint des Saints. Je dois penser que je prie maintenant, ma pensée va dans le Saint des Saints, entre les deux krouvim, les deux chérubins qu'il y avait sur l'armoire, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, c'est par là-bas que passe ma prière. Tu te prépares à ça, et tu pries dans ce sens-là, et tu pries à Hachem. Hachem, il écoute. Hachem, il écoute. C'est extraordinaire comme cadeau. Les mitzvot qu'on fait, on les fait d'habitude avec le corps. Mais il y a une mitzvot qu'on fait avec le cœur. Et Chazal ont dit, c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Il y a un travail à faire avec notre cœur. Comme dans le couple, on avait expliqué qu'il y a un travail du cœur aussi pour aimer sa femme, il faut exprimer cela. Il faut aussi avec Hachem. Maintenant, le meilleur moment où tu peux exprimer ton amour à Hachem, pendant la prière. Les trois premières brachot, ce sont des louanges à Hachem. C'est fantastique. Après, tu as les demandes. Après, tu as le remerciement. Mais vis cela. C'est un grand, grand cadeau. Qui a écrit la prière? C'était les derniers des prophètes. Des prophètes qui sont en contact avec Hachem. Ils nous donnent ce cadeau. Comment on peut décoller et être proche d'Hachem? Je l'ai raconté la dernière fois sur Razonich. Ouais. Une fois, on devait lui parler. On s'est rapproché, on lui a parlé. Il ne répond pas, il n'est pas là. Pendant la prière, mais on lui parle, on lui crie. On l'a secoué, alors il a... C'est ça une prière, être proche d'Hachem. Quitter ce monde-ci, être proche d'Hachem. Que Dieu nous aide à prier avec beaucoup, beaucoup d'intention et qu'il écoute nos prières et qu'il nous fasse signe aussi qu'il a écouté nos prières. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.